on s'en va à Maria en Gaspésie pour rejoindre notre amie chroniqueuse livre, Anne-Marie Aubin. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour Hélène.
Alors, je pense que c'est le dernier livre en lice que vous avez lu dans la catégorie des livres finalistes au prix littéraire des collégiens-collégiennes 2024, donc le prix qui sera remis ce mois-ci, si je ne m'abuse.
Ben, la semaine prochaine, dans le cadre du Salon du Livre, habituellement, c'est connu le vendredi soir, donc ça serait le 12 avril.
Le Salon du Livre de quel endroit?
De Québec.
D'accord.
De Québec. Ouais. Et puis, bon, ben, ça se passe en caucus secret, juste avant que ce soit connu publiquement dans la soirée du vendredi soir, habituellement. Ou, puis, habituellement, c'est remis le lendemain matin au Salon du Livre pour le grand public.
On va suivre ça.
Oui, puis on a fait le tour, on les a tous lus, je les ai commentés. J'aime beaucoup faire ça, j'ai souvent assisté auprès des collégiens, puis je trouve que c'est vraiment un moment particulier pour les jeunes lecteurs qui s'aperçoivent que finalement, discuter, argumenter sur un livre, ça fait partie du plaisir. C'est pas juste les livres à l'école, les devoirs, les dissertations. Ouais. Alors, il y avait des révélations parfois.
Ça les implique encore plus.
Exact. Et cette semaine, ben, j'ai lu La blague du siècle de Jean-Christophe Réel qui est paru chez Del Busso en 2023. C'est un livre de 246 pages. Et c'est le deuxième roman de Jean-Christophe Réel qui avait écrit Ce qu'on respire sur Tatooine et qui s'était mérité le prix des collégiens en 2019, justement. Puis c'est comme si 2019, ça a été pour lui là un grand virage à partir de ce prix-là. À ce moment-là, bon ben, il a été demandé pour écrire une chronique hebdomadaire au journal Le Devoir qu'il a tenu de 2020 à 2021. Il a été aussi finaliste au prix des libraires avec ce même roman. Et puis ensuite, il a fait de la poésie pour enfants à la courte échelle. Il a publié un recueil pour la jeunesse qui s'appelait « Peigner le feu » en 2019. Et toujours en 2019, il a eu, avec le musée le centre d'art de Diane Dufresne de Repentigny, il y a eu une exposition dans les commerces. Moi, j'étais allée voir une exposition au centre d'art Diane Dufresne, puis je vais prendre un café, puis je m'aperçois que dans toutes les vitrines, il y avait des poèmes de Jean-Christophe Réel. Je vous en cite un, par exemple, que j'avais retenu. Je m'entraîne, je fais du surplace, je pleure 10 minutes par jour, je me fais tatouer la lumière dans le dos. Alors, c'est beau, c'est tout court, et puis bon, ben, ça fait que le centre-ville était animé de sa poésie. Donc, c'est quelqu'un qui est à la fois poète et romancier, puis ça l'a amené ensuite à écrire la télésérie qui s'appelle « L'air d'aller », qui a 3 saisons déjà à son actif et qui a gagné le prix des étudiants à Cannes Série en 2023.
Ouais, 3 saisons, je ne suis pas sûre, Anne-Marie. Là, on est en train de regarder la 2e sur le site de Télé-Québec. 3e, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a un projet pour une 3e.
Elle est écrite, mais elle n'est peut-être pas diffusée.
OK, d'accord. Elle n'est pas encore diffusée, non.
C'est ça. Et puis là, il y avait beaucoup traité là-dedans, dans le roman et dans ça, de sa maladie, la fibrose kystique. Et dans ce roman-là, donc, La blague du siècle, il a eu envie d'aller ailleurs. Parce que cette maladie-là, évidemment, l'habite et il en a beaucoup traité dans le premier roman. Mais là, c'était d'autres maladies, comme quoi, lui, c'est un sujet qu'il ne peut faire autrement qu'aborder avec ce que ça entraîne de fatigue, de solitude et de difficulté. Alors, c'est un roman, La blague du siècle, qui n'est pas drôle, hein, même si ça s'appelle La blague.
Non, il n'y a rien de drôle là-dedans?
Il y a de l'humour quand même un peu.
Oui, il y en a de l'humour, Jean-Christophe Réel.
Voilà, mais c'est pas un roman où on s'éclate de rire tout le temps, là. En fait, c'est un peu comme une autodérision. C'est très réaliste. C'est un drame qui est raconté par le narrateur qui s'appelle Louis, qui dépeint un milieu qui existe, mais qui n'est pas souvent mis de l'avant dans la littérature parce que c'est le danger d'être trop déprimant ou tomber dans, le mélodramatique. Mm-hmm. Il est question de famille, de cancer, de maladie mentale, de deuil, de précarité, avec de l'humour et beaucoup, beaucoup d'amour.
Une chance.
Oui, parce que là, vraiment, moi, ça me dépassait. Je me disais, mon Dieu, quel don de soi. Louis, donc le héros-narrateur, a 35 ans. Il habite à Pointe-aux-Trembles et il vient de se séparer de son amoureux Nicolas. Et il a du mal à se séparer de lui, il trouve ça difficile. Il doit s'occuper de son frère qui est schizophrène et qui a 28 ans, mais aussi de son père, Sylvain, qui tout à coup a un cancer. Il vient d'apprendre ça au début du roman, un cancer du cerveau très agressif.
Oui, oui.
Ouais, et là, le médecin n'a pas beaucoup d'espoir. Alors là, lui, là, il est complètement bouleversé par tout ça. Et son frère, Guillaume, n'est absolument pas autonome. Et lui, ben, il travaille dans un Tim Hortons pour aider financièrement la famille. Et puis aussi, ben, pour pas venir fou, ben, il écoute des humoristes sur YouTube ou il va voir des spectacles parce que, dans le fond de son cœur, il y a un petit rêve qui serait de devenir un jour un humoriste, d'essayer de faire rire. Et ça, il s'y exerce assez bien parce que quand il voit son père ou bien qu'il voit son frère rire, ça le soulage. C'est comme si là, il les voyait heureux ou dans un moment où ils sont absents de la réalité et que ça fait du bien. Alors, c'est un roman qui est très réussi. Je dois avouer que les personnages sont très attachants. Malgré leur vulnérabilité, là, rien ne va pour personne là-dedans. Alors lui, il se sent responsable, qui est à peu près le plus équilibré des trois. Son père, c'est une bonne personne, mais là, son père, il est en déclin et je ne le reconnais plus. Il faut que je cherche dans mes souvenirs le père que j'ai connu parce que son comportement et son corps changent énormément à cause de la chimiothérapie. Et puis souvent, ben, les gens qui sont malades comme ça, leur caractère à cause de tous ces médicaments-là change.
Oui, donc, puis un cancer au cerveau, ça atteint le cerveau, alors ça atteint aussi les capacités cognitives.
Oui, puis son père est complètement irresponsable. Il ne sait pas trop, lui, quand il va travailler au Tim Hortons, ce qui se passe chez lui. Il essaie d'envoyer des textos à son frère pour voir ce qui se passe, mais son frère est un irresponsable aussi. Mm. Alors, c'est un roman de gars, parce que tout ce qui s'appelle la sphère féminine, l'univers féminin, c'est un peu abstrait pour ces gars-là. Parce que la maman est disparue depuis longtemps. Il dit, et je vais le citer ici, « Mon père, avec une tumeur au cerveau, qui veut absolument cruiser. » J'ai jamais vu mon père cruiser. Ma mère est morte quand j'étais très jeune. J'ai des vagues souvenirs d'elle. Guillaume, lui, ça c'est son frère, ne l'a jamais connu. Et d'aussi loin que je me souvienne, je n'ai jamais vu Sylvain avec une femme. C'est peut-être pour ça qu'il fait tout ça, pour rattraper le temps perdu. Alors là, sur son cellulaire, Guillaume va mettre Tinder sur le cellulaire du père, qui va faire des rencontres avec des femmes, alors qu'il est quasiment mourant. Là. Ça n'a aucun sens.
Il est très original, ce Jean-Christophe.
Oui, puis là, ben, il invite une première femme, puis il dit « je ne veux pas que vous soyez là ». Fait qu'ils s'en vont, mais ils essaient d'être en contact avec lui. Puis là, ben, c'est la femme qui s'appelait Martina, je pense, qui les appelle et qui leur dit « Écoutez, votre père s'est évanoui, il est dans la salle de bain, il a fait caca dans ses culottes, ça va
bien. » Oh, yo, yo.
Alors, c'est ça, c'est l'atmosphère dans laquelle le roman se déroule, parce qu'il va essayer avec une autre et une autre, puis jusqu'à temps qu'il rencontre une qui est un peu plus humaine, qui a eu, elle, deux cancers du sein, ouais, et qui va sympathiser comme une amie avec lui, et qui va être très gentille, puis qui va aider aussi les garçons.
Est-ce que c'est ça la blague du siècle, le fait que le père mourant trouve l'amour sur Tinder?
Non, je dirais que c'est tout ce qui est la quête du rire. Comment on peut rire, comment on peut faire rire.
Ouais. Et même puis, si c'est pas drôle.
Même si c'est pas drôle, c'est ça. Et par moments, lui, il fait des crises, Guillaume, dans sa maladie. Il est paranoïaque, il a des tocs, il délire. Et puis, il devrait, à mon avis, être interné parce qu'il est très dangereux. Il va mettre le feu, à un moment donné, dans le sapin de Noël. Mais il siphonne toute l'énergie de Louis. Il le rend fou, mais malgré tout, Louis est incapable de faire ça à son frère. Il le garde avec lui. Et il y a quelque chose là-dedans qui m'a rappelé des souris et des hommes. Est une personne irresponsable, handicapée, qui connaît pas la mesure des choses et son ami le garde avec lui. Il y a cette fraternité entre les deux. Alors, parfois, on rit de la situation. Parfois, on a rien qu'envie de pleurer. D'autres fois, on rit de bon cœur. D'autres fois, on rit jaune parce que c'est pas si drôle que ça. Et là, quand il travaille au Tim Hortons, ben, sa patronne, elle est pas gentille avec lui. Puis là, bon, ben, finalement, le père va décéder au cours du roman. On s'y attend. Mais lui, il déteste son emploi au Tim Hortons, puis il veut plus aller là. Mais en même temps, il est pris, là, il est coincé. Alors, à un moment donné, il va dire à sa compagne de travail, qui est très gentille, qui s'appelle Megan, « J'ai un père mourant, puis un frère schizophrène. » Silence. Un malaise fait du surplace entre elle et moi. C'est une belle image qui montre que finalement, il ne l'avait pas dit à personne. Il était très réservé, Louis. Mais là, il fallait qu'il le dise parce qu'il travaillait pas bien, il était préoccupé, puis il fallait qu'il explique sa situation. Et il s'inquiète beaucoup pour son frère, pour son père, pour leur futur, pour leur vie. Je le cite, « Le temps me glisse entre les doigts et je ne peux rien faire. J'assiste à la vie des gens qui m'entourent en admirant leurs défauts. Je suis jaloux d'eux. Je suis jaloux de mon frère schizophrène pour qui la vie semble si simple, si belle. Je suis jaloux de mon père qui a un cancer et qui ne se plaint jamais. Je suis jaloux du courage de mon père qui affronte la mort et qui souhaite à tout prix être en amour pour une dernière fois. Je le comprends tellement. Je m'ennuie de mon ex, je m'ennuie de Nick et de son odeur. Tout est plus simple quand on est amoureux. Alors, son amie au travail s'appelle Megan et elle va le prendre en pitié. Elle s'inquiète de lui. Quand ça fait 2-3 jours qu'elle n'a pas de nouvelles, elle va le voir même à son appartement. Elle ne le juge jamais. Et au moment où ils vont se sauver de l'appartement parce qu'il est arrivé un dégât, elle va les garder à la maison, va prêter sa voiture. Puis elle dit, tu sais, depuis le temps que tu veux faire un road trip, parce qu'il voulait faire ça avec son père et son frère, aller en Gaspésie, voir le rocher percé. Ben là, il dit, mon père est mort. Elle dit, ça fait rien, il faut aller avec ton frère, c'est important. Fait qu'elle lui prête sa voiture. Et ils s'en vont avec le père qui est, bon, dans un bloc de glace, ils ont mis les cendres. Ça, c'est une idée de son frère. Fait que là, il met ça dans une glacière. Ils s'en vont dans le Bas-Saint-Laurent avec ça. C'est complètement fou. Ça, on a vu beaucoup d'histoires où les familles se promènent avec les cendres.
Ouais. Il me semble que ça ferait un bon film.
Ah oui, en effet, tout à fait. C'est exactement. Fait que là, ben, ils vont arriver au Bic. Et c'est là que, finalement, l'histoire va se conclure. Puis au Bic, ils vont dans un gîte qui est un peu théâtral, qui s'appelle le Mange-Grenouille. Et le petit, il est convaincu qu'il y a des fantômes là-dedans. C'est hallucinant un petit peu. Puis dans tout ça, lui...
Le Mange-Grenouille, qui est le restaurant de...
Oui,
comment s'appelle-t-il? Colombe-Saint-Pierre.
C'est pas son restaurant, je suis pas sûre. Elle est à côté. Mais...
Oui, c'est ça. C'est dans le même coin.
Mais c'est tout avec des rideaux, c'est tout très théâtral là-dedans. Fait que lui, là, il aime pas ça du tout. Là. Il veut s'en aller de là parce qu'une de ses paranoïas, c'est qu'il voit des fantômes partout. Alors, ça, c'est très amusant. À un moment donné, il entend quelqu'un qui parle dans le frigo, puis il dit, il parle pas en français. Puis là, il tire le frigo dans le milieu de la cuisine et il dit, je le savais, il est fait en Chine. C'est un Chinois qui parle dedans. On va acheter un frigo du Québec. Là, c'est complètement fou, là. Alors, à certains moments, dans ces délires, on rit comme ça parce que ça n'a aucun sens. Puis en même temps, moi, j'éprouvais beaucoup de pitié et d'empathie pour le héros qui est pris dans cette affaire-là. Puis je me disais, bon, comment ça va finir? Et justement, la fin est ouverte à plusieurs interprétations. C'est bien. Je trouve ça intéressant comme ça. Et je pense que ça va plaire aux étudiants parce que tout le temps, je lis toujours en me disant, bon, comment vont-ils aborder ça? C'est des sujets réels. Traité avec humour, et il fait référence à des humoristes plus américains, plus anglophones que québécois. Et puis, les jeunes aiment ça. Les jeunes aiment beaucoup regarder des humoristes sur YouTube comme lui. Et à mon avis, s'il n'est pas premier, il va être deuxième. Parce que j'ai un gros, gros faible pour la version qui n'intéresse personne. D'après moi...
D'Emmanuel Pierrot?
Oui, je pense qu'elle va aller voler la vedette la semaine prochaine. Et lui, il sera pas loin derrière, parce que aussi le fait qu'il a déjà gagné un prix et la personnalité qu'il a, sa poésie à travers tout cet univers sombre, un peu d'humour aussi, je pense que ça va plaire. C'est pas que les autres sont pas intéressants, mais ce que je sais de toi, par exemple, d'Éric Chacour, est peut-être un petit peu plus difficile. Je dirais que c'est pour peut-être des meilleurs lecteurs que des 16-18 ans, là, ça c'est mon point de vue. Le conte est bon, c'est trop savant pour les étudiants. Je pense qu'ils vont abandonner. Je crois pas qu'ils vont suivre ça parce que Louis-Daniel Godin, c'est vraiment quelqu'un qui manipule les chiffres et puis c'est un univers bien particulier. Puis, ben, Mise en forme, c'est très, très féminin de Michaela Nicole. Alors, ça dépend. S'il y a beaucoup de filles dans les équipes de lecture, peut-être qu'ils vont voter pour ce livre-là aussi. Il pourrait être le troisième, à mon avis.
Quand on annonce les gagnants, ou le gagnant ou la gagnante, est-ce qu'on dresse une sorte de palmarès en cinquième place, en quatrième place?
Non, ce qui se passe, c'est que les étudiants de tous les cégeps envoient leur vote cette semaine, ou c'est peut-être déjà fait même, il fallait envoyer ça. Qu'est-ce qui est le premier, le deuxième et le troisième? Puis tous les cégeps participants, c'est compilé. Et ceux qui reviennent le plus souvent en première position, deuxième position, troisième position, sont retenus.
Okay.
Et la semaine prochaine, lors du débat, ça va se passer juste avec ces trois titres-là qui nous sont annoncés d'entrée de jeu là, quand on arrive. Et là, rendu à peu près dans 10 heures le soir, après les débats, on connaît le titre gagnant parmi les trois. Et puis là, c'est remis officiellement le lendemain matin au Salon du Livre de Québec. Et c'est pas connu, là. Les gens ne le savent pas avant que les jeunes aient délibéré. Et il y a des animateurs pour aider les jeunes à bien respecter les délibérations, le temps, le respect de l'opinion de l'autre. Puis à la fin, ils vont faire un texte inspiré de leur discussion pour présenter le titre gagnant. C'est toujours très touchant. Puis quand j'ai vu Jean-Christophe Réel, moi, en 2019, j'étais là. Quand on l'a présenté, c'était émouvant aux larmes, je vous jure. Parce que ce garçon-là, sa maladie, sa façon de vivre est émouvante. Et puis, il s'est présenté tout modeste devant le public. C'était la première fois qu'il gagnait un prix. Puis, en fait, on le connaissait pas vraiment avant 2019. Alors, moi, j'étais émue, puis beaucoup de gens étaient émus par le texte que les étudiants ont créé, puis son attitude, sa façon de recevoir tout ça. Fait que ça, là, les auteurs disent, ceux qui ont gagné, que c'est le plus beau prix qu'ils peuvent gagner parce que c'est pas des jurys d'intellectuels qui délibèrent là-dessus. C'est vraiment des étudiants qui commencent à lire.
Alors, et qu'est-ce qui est intéressant aussi pour les auteurs et autrices, ils sont capables de suivre les débats, ce qui se dit sur leur œuvre?
Ben, pas les débats finaux, parce que c'est vraiment secret, là. Mais il y a des débats qui se font au fil de ça commence ça en décembre, un peu, les rencontres, là. Puis eux autres, les auteurs, sont invités un grand débat à un moment donné, tous ensemble dans une librairie à quelques reprises. Il y en a, je pense, en région Trois-Rivières, Québec, Montréal. Et ils font des tournées. Par exemple, ici, en Gaspésie, on a reçu Emmanuel Pierrot et puis aussi Louis-Daniel Godin qui sont passés dans les cégeps de la Gaspésie qui participent. Il y en a deux, en fait. Il y a les Îles-de-la-Madeleine et puis Gaspé. Alors, il y a un représentant qui va aller de chaque cégep jeudi prochain sur la route pour aller participer au débat vendredi et à la remise samedi. C'est un très beau moment.
Alors, on va suivre ça de très, très près, puisque maintenant, on se sent encore plus dans le coup. On ne les a pas tous lus comme vous, Anne-Marie, mais merci de l'avoir fait. Et je rappelle qu'aujourd'hui, vous nous parliez d'un livre, du roman le plus récent de Jean-Christophe Réel, qui est dans la course, « La blague du siècle » aux éditions Del Busseau à lire. Merci beaucoup, Anne-Marie.
Merci. Au revoir.
À la semaine prochaine.